Chapitre 9. Les conspirateurs. Pour le docteur Darrell et Pelléas Antor, les soirées s'écoulaient en entretiens amicaux et les journées en futilités des plus agréables. Les plus banales des visites, apparemment. Le docteur Darrell s'était borné à présenter le jeune homme comme un lointain cousin d'outre-espace, et la curiosité se satisfit d'autant plus vite de cette explication qu'elle parut affreusement banale à la plupart. Néanmoins, un nom était comme par hasard jeté de temps à autre dans la conversation. Il s'ensuivait invariablement un silence méditatif au terme duquel le docteur Darrell répondait, sans le moindre embarras, par oui ou par non. Quand de temps à autre il lançait une invitation par l'intermédiaire du réseau public de Communi-Onde, il le faisait invariablement et tout simplement en ces termes. « Venez, j'aimerais vous présenter mon cousin. » Quant à Arcadia, elle avait entrepris de gérer la situation à sa manière. De tous les intéressés, c'était elle sans doute qui empruntait pour la circonstance les voies les plus détournées. C'est ainsi qu'à l'école, elle réussit à persuader son camarade et néanmoins condisciple, le dénommé Olintus Sale, de lui donner un capteur de son autonome de sa fabrication, en usant d'artifices qui augureraient mal du sort des pauvres mâles qui auraient la mauvaise fortune de passer à sa portée au cours des années à venir. En bref, elle témoigna d'un tel intérêt pour le violon d'ingres affiché de l'enthousiaste Olintus, il possédait son petit atelier personnel, combiné avec un habile transfert dudit intérêt pour les traits poupins du jeune garçon, que l'ingénieux constructeur se trouva bientôt 1. En train de discourir avec animation et prolixité sur les principes du moteur à hyperfréquence, 2. Vaguement conscient des grands yeux absorbés qui se posaient avec tant de légèreté sur les siens, 3. Confiant de force, à des mains consentantes, sa plus sensationnelle création, le susdit capteur de son. Après quoi, l'intérêt qu'éprouvait Arcadia à l'endroit d'Olintus alla peu à peu s'amenuisant, dans la mesure toutefois où la victime ne serait pas tentée d'établir une relation de cause à effet entre cette amitié spontanée et le micro en question. Pendant de longs mois, Olintus choya dans sa mémoire le souvenir de ce trop bref intermède. Mais les visites de la séductrice s'espaçant de plus en plus pour s'acheminer vers un arrêt total, il renonça et jeta sur l'aventure le grand voile de l'oubli. Au soir du 7e jour, 5 hommes se trouvaient réunis dans la salle de séjour de Darrell. Ils avaient tous l'estomac bien garni et du tabac à portée de la main. Pendant ce temps-là, à l'étage supérieur, le pupitre d'Arcadia était occupé par le produit à peine reconnaissable de l'industrie d'Olintus. 5 hommes, disions-nous. Le docteur Darrell, bien entendu, grisonnant, vêtu avec un soin méticuleux et paraissant un peu plus que ses 42 ans. Pelléas Antor, sérieux et l'œil aux aguets pour le moment, l'air jeune et pas très sûr de lui. Et les 3 nouveaux venus. Joel Turbor, star du Visicran, massif et lipu. Le docteur Helvet Semik, émacié, ridé, flottant dans ses vêtements et néanmoins titulaire d'une chaire honoraire de physique à l'université. Omir Munn, bibliothécaire, efflanqué et terriblement mal à l'aise. Le docteur Darrell s'exprimait avec aisance, sur le ton de la conversation familière. Messieurs, nous avons organisé cette réunion pour des raisons qui ont assez peu de parenté avec les conventions mondaines, vous l'avez certainement deviné, puisque vous avez été délibérément choisi sur examen de vos antécédents. Vous devinerez sans doute le risque encouru. Je me garderai bien de le minimiser, mais je vous ferai remarquer que dans tous les cas, nous sommes des gens condamnés. Vous aurez également remarqué que nous vous avons invité sans chercher à tenir la chose secrète. On ne vous a pas demandé de prendre des précautions particulières lors de votre trajet. Les vidéofiltres des fenêtres ne sont pas activés. Aucun écran ne protège cette pièce. Il suffirait que nous attirions sur nous l'attention de l'ennemi pour que notre perte soit consommée. Mais le meilleur moyen d'attirer cette attention serait d'affecter une attitude théâtrale,
ou si vous préférez de jouer les conspirateurs.
« Ah ah !» pensa Arcadia en se penchant sur les voix qui sortaient un peu grinçantes de la petite boîte.
« Vous comprenez ?»
Helvète Sémique contracta sa lèvre inférieure et découvrit ses dents dans ce rictus grimaçant qui précédait toujours chacune de ses phrases.
« Trêve de bavardage. Parlez-nous donc de ce jeune blanc-bec. »
« Il s'appelle Péléas Antor, » dit le docteur Darrell. « Il a été l'élève de Clyze, mon vieil ami qui nous a quittés l'an passé. Avant de mourir, Clyze m'a fait parvenir son schéma psychique jusqu'au 5e sous-niveau, et ce schéma a été vérifié par rapport à celui de l'homme que vous avez devant vous. Vous savez sans doute qu'aucun schéma psychique n'est identique à un autre, et que personne, même un spécialiste versé dans la science de la psychologie, ne peut truquer le sien. Sinon, tant pis, croyez-moi sur parole. »
Turbor fit la moue.
« Il faut bien commencer quelque part. Nous acceptons de vous croire sur parole, d'autant plus que depuis la mort de Clyze, vous êtes le plus grand électroneurologue de toute la galaxie. C'est du moins ainsi que je vous ai présenté dans mon émission de Tridi. J'en suis d'ailleurs persuadé. Quel âge avez-vous, Antor ?»«
29 ans, monsieur Turbor. »
Et vous êtes également électroneurologue ? Confirmé ?
Je ne suis encore qu'un étudiant. Mais je travaille dur et j'ai bénéficié des conseils de Clyze. Mun intervint. Il souffrait d'un léger bégaiement lorsqu'il était intimidé. J'aimerais bien qu'on entre dans le vif du sujet. Nous parlons trop. Le docteur Darrell leva un sourcil dans la direction de Mun.
« Vous avez raison, Amir. Allez-y, Péléas, nous vous écoutons. »«
Pas si vite, » dit lentement Péléas Antor. « Avant de commencer, bien que je partage tout à fait le sentiment de M. Mun, il me faut procéder au relevé des schémas psychiques. » Darrell fronça les sourcils.
« Que signifie, Antor ? De quel schéma psychique parlez-vous ? » ?»«
Les schémas de toutes les personnes ici présentes. Vous avez pris le mien, docteur Darrell. » Il faut que je prenne les vôtres. Et je tiens à effectuer les mesures moi-même.
Rien ne l'oblige à nous faire confiance,
dit Turbor.
Le jeune homme est dans son droit.
Merci, dit Antor. Si vous voulez nous conduire à votre laboratoire, docteur Darrell, j'ai pris la liberté de vérifier vos appareils ce matin. La science de l'électroencéphalographie était à la fois nouvelle et ancienne. Elle était ancienne dans la mesure où la connaissance des micro-courants engendrés par les cellules nerveuses chez les êtres vivants appartenait à cette masse immense de savoir humain, dont l'origine se perdait dans la nuit des temps. C'était une science qui remontait aux premiers âges de l'histoire humaine. Et cependant, d'un autre côté, elle était nouvelle. La notion de l'existence des micro-courants avait sommeillé pendant les dizaines de milliers d'années de l'Empire galactique comme l'un de ces phénomènes vivaces et capricieux mais totalement inutiles qui faisaient partie du bagage des connaissances humaines. Certains avaient tenté de les classifier en ondes de veille, de sommeil, de calme ou d'excitation, de santé ou de maladie. Mais les règles les plus générales fourmillaient d'exceptions décevantes. D'autres avait tenté de mettre en évidence l'existence de groupes psychiques analogues aux groupes sanguins bien connus, en démontrant que l'environnement extérieur était le facteur déterminant. Tels étaient les partisans du racisme qui soutenaient que l'homme pouvait être classé en espèces et sous-espèces. Mais une philosophie de ce genre ne pouvait tenir tête à la tendance œcuménique irrésistible que supposait l'Empire galactique, organisme politique s'étendant sur 20 millions de systèmes stellaires et comprenant l'humanité tout entière, depuis le monde central de Trantor, devenu à présent un souvenir glorieux, témoin d'un passé à jamais révolu, jusqu'à l'astéroïde le plus lointain de la périphérie. D'autre part, dans une société qui se consacrait comme le premier empire aux sciences physiques et à la technologie des substances inanimées, une tendance sociologique vague, mais puissante, écartait les gens de l'étude de l'esprit. Elle était moins respectable, parce que moins immédiatement rentable, et de ce fait n'attirait pas les investisseurs. après l'éclatement du Premier Empire, la science avait subi une fragmentation plus ou moins parallèle. Son déclin s'était accentué de plus en plus. On avait perdu jusqu'au secret de l'énergie atomique, et l'on était revenu aux sources d'énergie des premiers âges, le pétrole et le charbon. La seule exception à cette règle était bien entendu constituée par la première fondation, où l'étincelle de la science, ranimée, avait été ensuite intensifiée et entretenue dans son essor. Mais là encore, c'était le domaine de la physique qui avait la préséance et le cerveau était négligé hors du domaine de la chirurgie. Harry Seldon avait été le premier à exprimer ce qui, plus tard, était appelé à devenir une vérité reconnue. Les micro-courants nerveux, avait-il dit un jour, transportent dans leur flux l'étincelle de toutes les impulsions et de toutes les réactions qu'ils déclenchent, qu'elles soient conscientes ou inconscientes. Les encéphalogrammes sont le miroir, la résultante des impulsions psychiques de milliards de cellules. Théoriquement, l'analyse devrait révéler les pensées et les émotions du sujet, de la première à la dernière, de la plus petite à la plus grande. On devrait pouvoir détecter les différences qui sont dues non seulement aux grossières déficiences physiques, héréditaires ou acquises, mais également aux émotions passagères, à la culture, à l'expérience et même à des influences aussi subtiles qu'une modification survenue dans la philosophie du sujet par rapport à l'existence. Mais Seldon lui-même n'avait pu dépasser le stade des spéculations. Et voilà que depuis 50 ans, les hommes de la première fondation s'étaient donné pour tâche d'exploiter cette mine incroyablement vaste et complexe que constituait la nouvelle science. Cette exploration était effectuée au moyen de techniques inédites, telles que l'usage d'électrodes sur les sutures crâniennes qui permettaient d'entrer directement en contact avec les cellules grises sans qu'il fût même nécessaire de raser le crâne des patients. On utilisait également un appareil enregistreur qui transcrivait automatiquement un schéma psychique d'ensemble d'une part et une série de fonctions séparées comportant six variables indépendantes d'autre part. Le fait sans doute le plus significatif était le respect croissant que l'on témoignait à l'encéphalographie et aux spécialistes de cette science. Claes, le plus grand de tous, occupait dans les congrès scientifiques le même rang que les physiciens les plus renommés. Le docteur Darrell, bien qu'il ne fût plus en activité, était connu autant pour ses brillantes découvertes dans le domaine de l'analyse encéphalographique que pour être le fils de Beata Darrell, la grande héroïne de la génération précédente. Ainsi donc, le docteur Darrell se trouvait-il assis pour l'heure dans son propre fauteuil, le crâne soumis à la délicate pression d'électrodes ultra-légères, tandis que les aiguilles, à l'intérieur de leur cadran sous vide, allaient et venaient au rythme de ses ondes cérébrales. Il tournait le dos à l'enregistreur, sans quoi la vue des courbes galopantes aurait, le fait était bien connu, suscité un effort subconscient pour les dominer, avec des résultats perceptibles. Mais il savait que l'écran central reproduisait une courbe fortement rythmée, en forme de sigma, avec peu de variantes, comme l'on pouvait s'y attendre de la part de son esprit puissant et discipliné. Cette courbe serait ensuite renforcée, filtrée et affichée sur l'écran secondaire, celui de l'onde cérébelleuse. On pourrait y observer les bonds brusques et quasi discontinus du lobe frontal, et la vibration atténuée des régions subsuperficielles, caractérisées par une bande de fréquence relativement étroite. Il connaissait aussi bien son schéma psychique qu'un peintre pouvait connaître la teinte de ses propres yeux. Pelléas Santor n'émit aucun commentaire lorsque Darrell se leva du fauteuil au dossier incliné. Le jeune homme étudia les sept épreuves avec le coup d'œil exercé de l'homme qui sait très exactement ce qu'il cherche et où il doit le chercher. « Docteur Semik, si vous voulez bien vous asseoir. » Le visage jauni par l'âge de Semik affichait un sérieux exemplaire. L'électroencéphalographie était une science nouvelle pour lui. Elle était entrée dans sa vie sur le tard. Il n'y connaissait pas grand-chose. C'était une lacune dont il éprouvait une légère rancœur. Il savait qu'il était un vieillard désormais et que son schéma psychique ne manquerait pas d'en faire état. Les rides de son visage en témoignaient, ainsi que sa silhouette voûtée, le tremblement de sa main. Mais ces signes extérieurs ne concernait que son physique. Le schéma psychique pourrait montrer que son esprit avait vieilli, lui aussi. Intrusion humiliante et sournoise au cœur de l'ultime forteresse d'un vieil homme fatigué. Son esprit. Les électrodes furent mises en place. Bien entendu, l'opération était indolore du commencement à la fin. C'est à peine si on imaginait une sorte de picotement diffus, de vagues frissons, très au-dessous du seuil de la sensation. Ce fut ensuite le tour de Turbor qui s'assit avec un grand flegme et le conserva pendant les 15 minutes que dura l'opération. Puis, Mun, qui sursauta au premier contact des électrodes et passa ensuite son temps à rouler des yeux en boule de billard comme s'il avait voulu les retourner à l'envers et observer les appareils à travers un trou percé dans son occiput. « Et maintenant ?» demanda Darrell lorsque tout fut terminé. « Et maintenant ?» dit Antor avec des excuses dans la voix. « Il y a encore une personne dans la maison. »
« Ma fille ?»
demanda Darrell en fronçant les sourcils.
« Oui.
J'ai demandé qu'elle veuille bien rester ici ce soir, si vous vous souvenez. »
« Pour une analyse encéphalographique ?»« Par la galaxie, mais pourquoi faire ?»
Je ne saurais poursuivre sans cela. Darrell haussa les épaules et gravit l'escalier. Arcadia, qui avait eu tout le temps de prendre ses précautions, avait débranché le capteur de son avant son arrivée. Elle le suivit aussitôt avec une docilité exemplaire. C'était la première fois qu'elle se trouvait sous les électrodes, si l'on fait abstraction de l'enregistrement de son schéma psychique peu après sa naissance pour les besoins de l'identification et de l'état civil. « Puis-je voir ?» demanda-t-elle en tendant la main lorsque tout fut terminé.
« C'est trop compliqué pour toi, Arcadia, »
dit le docteur Darrell.
« D'ailleurs, il est temps d'aller au lit, non ?»«
Oui, père, »
dit-elle avec une pointe d'affection. « Bonne nuit, tout le monde !» Elle courut à l'étage et se blottit dans son lit après un minimum de préparatifs. Avec le capteur de son dissimulé sous son oreiller, elle se sentait l'âme d'une héroïne de vidéo-livre et savourait chaque moment de son aventure d'espionne en herbe avec des sentiments proches de l'extase. Les premiers mots qu'elle entendit furent prononcés par Antor. « Messieurs, les analyses sont toutes satisfaisantes, ainsi que celles de l'enfant d'ailleurs. »«
L'enfant ?»
répéta-t-elle avec dégoût, et dans l'obscurité, tout son être se hérissa d'hostilité contre Antor.